Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Allianz et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, nous abordons aujourd'hui ce sujet délicat dans Priorité Santé. Un décès toutes les 40 secondes dans le monde, un toutes les heures en France. Le suicide peut intervenir à n'importe quel moment de la vie et concerne toutes les régions du monde. Selon l'OMS, 800 000 personnes mettent fin à leur jour chaque année et il est difficile d'évaluer le nombre de tentatives. C'est en tout cas la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Facteurs personnels, relationnels, sociaux qui provoque une souffrance profonde, on retrouve des parcours douloureux derrière ces passages à l'acte. Antécédents psychiatriques, solitude, surendettement, violences intimes, discrimination, le suicide reste encore souvent un sujet tabou, condamné moralement, proscrit par de nombreuses religions et largement sous-estimé en dépit de son caractère universel. Et pourtant, le suicide concerne chacun d'entre nous. En regardant autour de soi, un voisin, un ami, quelqu'un dans sa famille, un ancien camarade de classe ou même un collègue de travail. Aujourd'hui, rares sont les pays à considérer le suicide comme un enjeu de santé publique, alors que des facteurs de risque sont identifiés et que des stratégies existent en matière de prévention de ces actes. Prévenir le suicide, c'est donc lutter contre l'isolement, améliorer la prise en charge des personnes fragiles, prendre en considération l'entourage et toujours lutter contre le tabou. Journée mondiale de prévention du suicide, pour en parler avec nous aujourd'hui en duplex depuis Lyon, professeur Jean-Louis Terra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Claude Bernard Lyon 1, psychiatre consultant au centre de prévention du suicide de Lyon et membre de l'Observatoire national du suicide. Et nous retrouverons tout à l'heure en direct de la RDC le professeur Samuel Mampunza, neuropsychiatre, ancien doyen de la faculté de médecine de Kinshasa et actuel vice-recteur de l'université protestante au Congo. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Jean-Louis Terra, pour commencer notre émission, il faudrait préciser qu'aucune région du monde, aucune tranche d'âge n'est épargnée par le suicide.
Alors, aucune tranche d'âge, on a très peu de suicides, heureusement, avant 10 ans. Plus l'âge croît, plus le taux de suicide augmente. Donc, les personnes âgées ont des taux de suicide plus élevés que les jeunes. Ce est valable dans la plupart des pays, mais pas dans tous. Notamment dans les pays émergents, comme on dit, le taux de suicide peut être élevé chez les jeunes entre 20 et 30 ans. Alors que dans notre pays, c'est plutôt les 35-55 ans et après 75 ans.
D'ailleurs, d'après l'OMS, 79% des suicides surviennent dans des pays dits à faible revenu, à revenu faible ou intermédiaire.
Oui, mais aussi c'est des pays qui ont des populations très importantes. Il faut savoir que le taux de suicide varie énormément d'un pays à l'autre, voire même au sein d'un pays, d'une région à l'autre. C'est-à-dire que le taux de suicide à Paris, Île-de-France, et le suicide dans d'autres départements, je cite par exemple les Côtes d'Armor, la variation est très importante, de l'ordre de 3 à 4. Donc c'est une analyse plutôt locale qui est nécessaire pour bien combattre le suicide. C'est connaître dans un canton, dans une région, dans une vallée, le taux de suicide. La dispersion du taux de suicide est très variable d'un endroit à l'autre, finalement.
Et alors, justement, est-ce que le contexte socio-économique ou historique même d'un pays a un rapport avec le taux de suicide ?
C'est difficile à dire. Il y a eu beaucoup d'études sur la crise de 2008 et, malgré de très nombreuses analyses statistiques, l'influence de la crise économique n'a pas été mise en évidence en France de façon très forte. Les derniers rapports de l'Observatoire national du suicide le montrent, que c'est un lien complexe. C'est pas seulement le chômage qui est important, mais c'est comment les chômeurs sont pris en compte, sont soutenus,
pris en charge,
et peuvent en parler dans leur famille, par exemple, et n'ont pas honte de ne pas trouver un emploi.
Alors, parmi ces chiffres, toujours d'après l'OMS, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans, la troisième chez les 15-19 ans. Est-ce que la grande vulnérabilité de la jeunesse face au suicide est justement un phénomène international ?
Oui, mais les chiffres, il faut les regarder avec attention. Avec la Covid, on parle beaucoup des chiffres et on peut les manipuler. Comme les jeunes décèdent très peu, il est assez naturel que les accidents et les suicides viennent en premier. En revanche, chez les personnes âgées, après 75 ans, où les causes de mortalité sont très nombreuses, le suicide est une cause, peut-être la dixième par exemple, mais les taux sont plus importants. Donc, attention à ce maniement des chiffres. Le taux de suicide en France métropolitaine, par exemple, est plutôt faible chez les jeunes. Et d'ailleurs, il a décru depuis les années 1986.
Alors, malgré ces chiffres, d'après ces chiffres, c'est selon, est-ce qu'il y a malgré tout moins de suicides aujourd'hui qu'hier dans le monde ?
Oui. Alors, dans le monde, il y a une diminution, puisque l'OMS a porté le chiffre d'un million de suicides par an, et que le dernier chiffre avancé par l'OMS est de l'ordre de 800 000. Il faut savoir que beaucoup de pays font des efforts. Quand on refait une revue de la littérature, on se rend compte que des pays du sud-est asiatique font des efforts considérables. La Chine, la France aussi fait des efforts.
Quand vous parlez d'efforts, vous parlez de quoi, par exemple ?
De programmes de prévention qui sont soit nationaux, soit régionaux. Et je pense que les programmes régionaux de prévention ont un rôle très important puisqu'ils arrivent à souder les acteurs qui sont sur les trajectoires des personnes qui vont mal, pour mieux entrer en contact avec eux, identifier leurs souffrances, évaluer s'ils ont ou non des pensées de suicide, et intervenir de façon appropriée, si c'est le cas. La France a un programme, le premier programme a été 2001-2005, puis il y en a eu d'autres, il y en a encore actuellement. La prévention du suicide doit être discrète. C'est-à-dire, la question n'est pas de lever le tabou, finalement, sur le suicide. La question est de lever le tabou sur la prévention. C'est-à-dire que beaucoup de choses se font, des choses qui doivent être discrètes, efficaces, et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de publicité sur ces actions-là. Il faut les faire, surtout. Il faut les réaliser plus qu'en parler.
Vous parliez justement de la pandémie de Covid-19. Est-ce que le confinement, l'anxiété due à la crise sanitaire et la crise économique ont aggravé le taux de suicide, ou est-ce qu'il est encore un peu trop tôt pour avoir des chiffres ?
Il est bien trop tôt pour notre pays, puisque les chiffres de suicide arrivent en général 3 ans ou 4 ans après l'année écoulée. Donc on le saura peut-être en 2023 ou 2024, sauf si nous avions des enquêtes précises. Personnellement, en tant que psychiatre, beaucoup de mes patients lourdement touchés par la maladie ont trouvé que le confinement imposé par l'État ressemblait étrangement au confinement imposé par leur maladie. Et donc, ils ont eu le sentiment de rentrer dans le rang et de ne pas être stigmatisés dans le sens où ils devaient sortir et ils ne sortaient pas parce qu'on leur demandait de ne pas sortir. Donc, ce qui est probablement plus difficile, c'est la fin du confinement, et de reprendre des activités et de se rendre compte que les différences entre les individus existent toujours.
Professeur Jean-Louis Terra, est-ce que certaines personnes sont plus exposées ? Est-ce qu'on peut établir les grandes causes ?
Alors, les personnes exposées, c'est les hommes. Les hommes, 3 fois plus en moyenne. Les hommes âgés, 4, 5, 6 fois plus que les femmes. C'est valable dans notre pays, ce n'est pas valable dans tous les pays. Si on prend les chiffres en Iran, au Sri Lanka, beaucoup plus de jeunes et beaucoup de jeunes femmes. Donc, les hommes. Deuxièmement, des personnes qui souffrent d'un trouble dépressif ou un trouble bipolaire. Les personnes qui souffrent de schizophrénie, les personnes qui souffrent d'un stress post-traumatique, et je pense que c'est très important de connaître ce facteur de risque pour toutes les personnes qui ont connu des violences, soit dans des théâtres de guerre, soit dans le cadre des violences familiales que vous avez évoquées. Et puis les addictions, et notamment les addictions à l'alcool, qui, lorsqu'elles sont importantes et durables, conduisent à des taux de suicide importants.
Le lien est souvent établi entre santé mentale et conduite suicidaire. Je pense notamment à l'anorexie, à la schizophrénie.
Oui, alors pour l'anorexie mentale, le taux de suicide est extrêmement important. C'est une maladie où les personnes souffrent énormément de leur besoin de lutter contre la faim et de restreindre leur alimentation. Et cela a des conséquences très importantes, même sur leurs résultats scolaires ou universitaires, parce que ce n'est pas sans conséquence de se priver à ce niveau-là de nourriture.
Et on parle aussi de groupes vulnérables, je pense aux personnes confrontées à la discrimination par exemple.
Oui, alors il faut savoir bien distinguer la vulnérabilité liée à l'apparition de pensées suicidaires. Deuxièmement, l'apparition de tentatives de suicide et l'apparition de décès par suicide. Pour la discrimination, on a souvent des preuves, discrimination d'ordre sexuel, on a souvent des preuves d'augmentation des tentatives de suicide. L'augmentation des tentatives des décès par suicide n'est pas totalement avérée. D'autre part, il est très important de ne pas aborder la question du suicide par un seul facteur de risque, mais voir que les personnes qui décèdent ont souvent 4, 5, 6, 10 facteurs de risque, et que c'est l'intrication entre eux, par exemple, trouble bipolaire, trouble de la personnalité, addiction, séparation, conflit au travail, problème d'argent, c'est cet ensemble de facteurs de risque qui vont créer des souffrances durables et insoutenables, qui vont faire qu'au bout d'un certain temps, la personne ne sait plus quoi faire et elle va mettre le pied sur sa souffrance, elle va l'écraser avec le talon par les pensées suicidaires. Il est important de comprendre que le suicide n'est pas une maladie, c'est un risque et que c'est d'abord reprendre le contrôle sur la souffrance.
Un risque donc qu'on peut prévenir, professeur Jean-Louis Terra. Vous travaillez sur le suicide et sur sa prévention. Quand on parle de prévention, justement, on s'intéresse surtout aux signes observés avant le passage à l'acte, anticipés donc pour mieux prévenir. Est-ce qu'on peut parler de signes avant-coureurs, d'attitudes qui doivent retenir l'attention d'un proche ou d'un passant ou de quelqu'un de la famille?
Il y a beaucoup de signes et ces signes sont quelquefois trompeurs. Souvent, c'est des personnes qui vont se mettre en recul de leur famille, en recul de leur travail. Et des personnes qui étaient agréables deviennent un peu cyniques. Des personnes qui travaillaient extrêmement bien commencent à bâcler leur travail, comme pour attirer l'attention sur leur travail et indirectement sur eux-mêmes. C'est des phrases aussi du style « ça va pas durer longtemps »,« je vais trouver une solution »,« ça devrait s'arranger », « dans quelque temps vous pourrez prier pour moi », « je vais moins rouler ». Donc c'est des signes de changement. Donc c'est la question d'abord de l'observation des êtres humains, les uns par rapport aux autres. Il a changé, on ne le reconnaît pas. C'est des phrases qu'on peut dire. « Je ne te reconnais pas. Tu étais venu arriver il y a 2 ans, mais ce n'est plus le même ou ce n'est plus la même personne qui est là. » Et là, c'est un acte de curiosité. Il faut être curieux dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il faut investiguer pour dire « Mais qu'est-ce qui a changé profondément dans ta vie ?»
Toucher à l'intime, en fait, de la personne en face.
Voilà. Alors, on touche à l'intime des dernières 24 heures, pas plus. Qu'est-ce que tu as ? Tu me dis que tu n'as pas dormi. Cette nuit, quelle est la pire pensée que tu as eue ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Qu'est-ce que tu aurais pu entreprendre ? Et c'est en allant au cœur de l'insomnie, par exemple. Ça peut être la colère, la jalousie, l'impuissance. Mais l'insomnie est un endroit merveilleux pour rentrer dans les ténèbres et d'avoir une vision du pire, mais surtout du pire récent. On doit être curieux de l'autre, on va dans l'intimité, mais ce n'est pas l'intimité de toute la vie, c'est l'intimité des dernières heures. Et c'est dans ces dernières heures qu'on va trouver les vagues scélérates, on peut dire, des vagues énormes qui renversent, qui étouffent l'individu, et que ces vagues vont éventuellement le pousser à avoir des pensées, avoir une intention, avoir une programmation, avec quoi, quand, où, comment, et éventuellement à mettre en œuvre la personne. Mettre en œuvre, pardon, le geste.
Alors, quand on a détecté cette détresse, professeur Jean-Louis Terra, quand et comment commence la prise en charge d'une personne suicidaire ou aux idées suicidaires ?
Alors, il est important que la personne suicidaire puisse le dire à au moins un individu sur la planète, aux individus les mieux placés.
Qui n'est pas forcément un professionnel de santé, alors ?
Qui n'est pas d'abord un professionnel, mais d'abord ses proches. Alors ça peut être un ami, ça peut être les parents, les enfants, quelqu'un, mais ne pas rester avec ça dans la tête. Parce que plus on reste avec cette impuissance, plus on se fait des idées sur soi-même et sur les autres, et plus on peut aller vers les ténèbres. Donc il faut briser l'isolement des personnes en crise suicidaire, leur donner le goût de la prévention, de dire que la prévention existe, qu'elle n'est pas loin. Moi, je dis souvent, le problème est dans les 3 mètres et la solution aussi. Et les personnes cherchent des solutions souvent trop distantes de leur propre entourage. Donc, il faut qu'elles se confient à quelqu'un de leur entourage. Si ce n'est pas le cas, l'entourage ne pourra pas avoir l'attitude adaptée et donc va dire des paroles inadaptées, avoir des attitudes inadaptées. Donc, je demande souvent, par exemple, à mes patients de prévenir leur famille. Les gens disent, mais non, ils vont jamais comprendre, ils vont pas accepter, ils comptaient sur moi. Je leur dis, mais comment voulez-vous qu'ils puissent avoir l'attitude adaptée s'ils ne savent pas exactement où vous en êtes? Et je leur donne un petit délai, par exemple, vous avez 48 heures pour en parler. Souvent, les gens n'aiment pas les délais, et ils disent, ils m'envoient un SMS, me disent, bon ben, je mange avec mon père aujourd'hui. Donc c'est ça. Et ensuite, une fois qu'un proche est informé, voir le degré d'urgence et aller voir un professionnel. Par exemple, ça peut être aller aux urgences, ça peut être un téléphone dans le service à Lyon, de centre de prévention du suicide. Ça peut être bien sûr la téléphonie sociale, mais qui est souvent un peu anonyme. Donc pour être pragmatique, c'est aller voir par exemple le généraliste, qui est quand même le référent dans le système de santé français.
Et je vous propose d'écouter un témoignage. Nous avons rencontré Nadia la semaine dernière. Elle est retraitée et vit en Bourgogne. Sur son avant-bras gauche, elle a fait tatouer le surnom de sa fille, Mag, qui s'est suicidée à l'âge de 27 ans. On l'écoute.
Mon histoire, le proche que j'ai perdu, eh bien, c'est ma fille qui avait 27 ans et qui a mis fin à ses jours le 6 juin 2010. Suite à une maladie qui s'appelle l'anorexie et une grosse peine sentimentale. Voilà. Elle a laissé des courriers, donc je sais le pourquoi du comment. Heureusement qu'elle les a laissés, ça m'a complètement éclairée et énormément aidée. Parce que quelqu'un qui attend à ses jours et qui ne laisse rien, c'est encore plus difficile parce que les personnes qui restent, quand elles ne savent pas le pourquoi du comment, c'est encore plus terrible. Honnêtement, moi, j'ai même eu au début beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, énormément de colère, parce que elle avait 2 enfants en bas âge, et ça, je ne l'ai pas compris, et je ne le comprends toujours pas. Et surtout que c'était une très bonne maman qui adorait ses enfants, mais dans le courrier qu'elle a écrit à un de ses fils, elle lui disait qu'elle préférait partir que d'imposer sa maladie à ses enfants, qui vivraient plus heureux sans elle et sans sa maladie. C'est ce qu'elle a écrit. Ceux qui partent, c'est une chose, mais ceux qui restent, moi j'en ai jusqu'à la fin de ma vie, et ses enfants aussi. Hein.
Est-ce que vous étiez au courant de cette souffrance ?
Oui, j'étais au courant de cette souffrance, mais avant qu'elle mette fin à ses jours, j'étais 1 mois sans la voir parce que elle n'acceptait pas les conseils que je lui donnais. J'essayais de la raisonner, elle n'acceptait pas. Quand on est maman et qu'on voit son enfant s'enfoncer, c'est difficile quand même d'assister à ça sans réagir. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, donc c'était 1 mois avant son décès, j'ai carrément reculé et j'ai eu un sacré choc. Elle est partie, elle faisait 32 kilos. Donc, vous voyez, j'ai eu un énorme choc en la voyant. Ça, c'est vraiment... Et c'est là que je lui ai dit, Magali, je te jure que si tu fais pas quelque chose, ça va t'emmener. Des appels, il y en a eu, parce que c'était la sixième fois qu'elle essayait d'attenter à ses jours. Je pense pas qu'à ce moment-là, lors des appels, l'envie de mourir était là. Par contre, la dernière tentative, je pense, l'envie de mourir était là. Et vu la façon comme elle s'était pris, elle aurait pas difficilement pu ne pas arriver à ce qu'elle voulait. Voilà.
Et comment ça s'est passé pour vous ?
Ben, au début, j'ai eu beaucoup de mal. J'étais presque 2 ans et demi. Je me suis sentie fautive, j'ai fait une dépression. Et ensuite, je me suis dit, elle n'a pas pu être heureuse, tu vas l'être pour elle. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je... C'est vraiment ma ligne de conduite aujourd'hui. Voilà. Et moi, je considère ça comme une épreuve. Il faut la passer et... C'est un peu... Je suis un peu dans la résilience, là, maintenant. Un peu beaucoup dans la résilience, voilà.
Alors, vous dites que vous avez... vous êtes tombée dans une dépression après le suicide de votre enfant, de votre fille. Par quel chemin vous êtes passée pour vous en sortir ?
Eh bien, j'ai été suivie par un psychologue qui m'a beaucoup aidée à me... à ce que je comprenne que je n'étais pas responsable du tout ça, bien que je... Je garde toujours une petite part de responsabilité parce que pour moi, ce serait un peu trop facile de se dire c'est la faute à personne. Donc, il y avait du monde autour d'elle, personne n'a rien vu. Donc, personnellement, moi, j'assume ma part et même on pourra toujours me dire que j'en ai pas. Pour moi, j'aurai toujours une petite part de responsabilité quelque part. Et ensuite, j'ai repris mon travail, ce qui m'a aussi aidée. Et j'ai fait du bénévolat dans beaucoup d'associations. Et je me suis rendu compte que ben, tout le monde a sa part de malheur, c'est peut-être pas le mot, mais de difficultés dans la vie. Malheureusement, moi, ça a été ça. D'autres, c'est autre chose. C'est un parcours de vie, voilà. Il faut faire avec. Je n'ai plus de colère, je ne lui en veux pas. C'est pas un traumatisme que j'ai dépassé, c'est un traumatisme dont je me sers pour avancer maintenant. Je vis avec et je... Moi, je veux être positive parce que je me refuse absolument à être malheureuse et triste parce que j'ai d'autres enfants, j'ai des petits-enfants qui ont besoin d'une maman et d'une grand-mère en pleine forme et qui ne rajoutent pas encore un drame au drame qui est déjà arrivé. Ce que ma fille n'a pas pu vivre, je veux le vivre à sa place. Le bonheur qu'elle n'a pas pu accéder, moi, je vais l'accéder pour elle et pour moi. Ça, c'est très, très important pour moi.
Professeur Jean-Louis Terra, le rôle des proches, le retentissement pour l'entourage, évidemment le décès par suicide a des répercussions traumatiques pour les proches. Est-ce que vous diriez que cette dimension sur le cercle de la victime est encore largement sous-estimée ?
Oui, alors on essaye souvent de quantifier le nombre de personnes impactées suite à un suicide. Donc pour cette maman, on voit bien que la relation d'attachement était bien sûr profonde, qu'elle a fait graver le prénom de sa fille donc dans sa propre peau pour à la fois ne pas l'oublier et aussi faire un autre chemin. Donc il y a les proches, il y a les amis. On dit que 20 à 100 personnes sont impactées. Mais la couleur de l'impact dépend vraiment de la relation précédente. C'est-à-dire la relation qui était nouée entre cette maman et cette fille va donner une couleur au deuil qui va suivre la perte de la fille et de Magali. Et on voit que cette relation était plutôt saine, hein, dans le sens où cette maman distingue bien l'impact de la maladie de sa fille. Et que le bonheur que sa fille n'a pas pu avoir à cause de la maladie, elle va essayer de le vivre, de le donner aux petits-enfants, hein. Ce qui me semble une façon de poursuivre la vie, hein, très remarquable. Mmh.
On l'a entendu dans le témoignage de Nadia, il faut aussi apprendre à se déculpabiliser, à vivre avec la perte brutale d'un proche, parfois sans avoir d'explication. D'après votre expérience, est-ce que vous auriez un parcours à préconiser aux familles qui vivent ce type de deuil ?
Alors moi j'ai une position assez spécifique par rapport à la culpabilité. Pour moi la culpabilité est d'abord une preuve d'amour. C'est-à-dire que les parents, là, cette maman se dit « mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ?» Pourquoi lorsque je l'ai vu un mois avant à 32 kilos, j'étais effrayé, je n'ai pas avancé, j'ai reculé. Hein. Donc la culpabilité, c'est souvent une reprise de contrôle sur un geste où il y a une perte de contrôle totale. Hein. Autant la personne reprend le contrôle sur sa souffrance, autant les proches perdent le contrôle. Je voyais ma fille, je ne peux plus la voir, je ne peux plus la serrer dans mes bras. Donc les fils pour renouer un lien avec la personne, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu dire, est-ce qu'elle était bien soignée, etc. Et donc, j'essaye d'explorer avec les familles ou les personnes que j'accompagne après un suicide pour dire, oui, qu'est-ce que vous auriez voulu faire de plus ? Qu'est-ce que vous auriez tant aimé qu'elle ait en plus, par exemple ? Et je n'essaye pas de déculpabiliser, d'ailleurs cette personne le dit bien, on me dit je ne suis pas responsable, et elle dit ne m'enlevez pas ça. Parce que si je ne suis pas responsable, ça veut dire que je n'avais aucun bras, aucun lien avec ma fille. Mmh. Or, la culpabilité, c'est retrouver des bras, pour dire mais j'aurais aimé la prendre dans mes bras, j'aurais aimé l'empêcher de faire ce geste. Donc je suis assez... Enfin, voilà, la culpabilité, c'est le chemin du travail, c'est le chemin du deuil. Et au bout de quelques temps, de quelques années, quelquefois, la personne dit bah, toutes les questions que je me suis posées, j'ai essayé d'y répondre. Il y a des réponses que je n'aurais jamais. Maintenant, je passe à autre chose. Les morts n'ont plus la priorité. Ce sont les vivants, mes petits-enfants, moi-même. Et je continue à vivre. Continuer à vivre et trouver un autre chemin. Enfin, retrouver un chemin. Il faut penser que c'est une sorte de chemin. Cette jeune femme est morte à cause d'une maladie sévère, redoutable, qui l'a détournée de son chemin de sa vie.
Tout de suite, je vous propose, professeur Jean-Louis Terra, de donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
RFI.
Et tout d'abord, on part à Kara, au Togo, où on va retrouver Raphaël. Bonjour Raphaël, on vous écoute.
Bonjour Raphaël Constant.
Bonjour. Vous avez un très beau prénom.
C'est ça, merci.
On vous écoute.
Merci. En fait, je suis titulaire d'une licence en histoire. Ça fait 2 ans, ça fait que j'ai le diplôme. Je n'ai pas d'emploi. Et vous le savez, je suis d'une famille pauvre. Et quand je pense à tout cela, ça me tracasse, je reste pensif. Et jusqu'au point où, en 2019, c'était le 10 mars 2019, quand on m'informait que ma maman est gravement malade. Je n'avais pas d'argent pour l'aider. Et quand j'y ai pensé, le mieux c'était de ne plus vivre. Quoi. Et vraiment, j'avais préparé tout. J'ai cherché une corde que j'ai cachée dans ma chambre. J'ai même voulu mettre la corde au cou. Et le monsieur m'a dit bon. J'ai créé une note et je suis retourné pour publier une note. Et c'est là qu'un cohabitant est rentré me faire chose. Je me suis demandé. Il me demande qu'est-ce que je voulais faire avec la corde. Non, rien. Il a insisté pour pouvoir vous tenir du temps. Il a essayé de me conseiller et il a détaché la corde. Mais juste alors, ça me traumatise. Quand je pense à ça, vraiment, je ne suis pas à l'aise.
Donc, si je comprends bien, Raphaël, vous avez tenté de mettre fin à vos jours. Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous en avez parlé à votre entourage, à des amis, un voisin, un cousin, peut-être ?
Non, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Pour moi, c'est une honte, donc je ne dois pas publier. Et même à ma famille, je ne leur ai pas dit.
Et votre famille vit avec vous ?
Non, je suis un peu loin de ma famille.
Vous êtes loin, c'est-à-dire que la famille est au village, c'est ça, et que vous ne pouvez pas les joindre, que vous ne pouvez pas les voir, ou vous ne voulez pas en parler avec eux?
En tout cas, je ne veux pas les décevoir. Mes parents ont promis pour que j'étudie, donc j'ai étudié, je ne veux plus les décevoir. Et quand ils la regardent aussi, ça me fait très mal.
Et aujourd'hui, Raphaël, comment vous vous sentez?
Je ne me sens pas à l'aise. Quand je suis là, je reste toujours pensif. Et puis, j'aime rester seul.
Professeur Jean-Louis Terra, est-ce que vous voulez réagir au témoignage de Raphaël?
Oui, bien sûr. Bah, d'abord, le remercier de pouvoir dire sur les ondes ce qu'il n'arrive pas à dire à sa famille. Et est-ce qu'il a l'espoir, d'ailleurs, que sa famille l'écoute et comprenne j'ai compris que vous étiez l'aîné, Raphaël, peut-être. Vous êtes l'aîné de la famille?
Oui, je suis bien sûr l'aîné.
Vous êtes l'aîné. Donc l'aîné, celui qui porte des espoirs, celui qui ouvre la route, celui qui a fait de belles études et qui en est fier. Et vous êtes en grande difficulté parce que j'ai compris que vous ne trouvez pas de travail et que vous vous décevez vous-même et vous avez peur de décevoir votre famille. Il serait important que au moins un membre de votre famille soit au courant de ce que vous vivez. Parce que la communication est quasiment coupée entre vous et votre famille, puisqu'ils ne savent pas où vous en êtes. Donc ils vous mettent la pression, ils vous demandent des choses que vous ne pouvez pas faire, hein, les aider par exemple, et vous êtes vraiment, presque dans une, on dirait une cave, hein, dans un trou. Donc ça, il faut d'abord briser votre isolement. Alors, trouver quelqu'un, un professionnel de santé. Cara n'est pas une grande ville, je crois, je sais pas, une centaine de milliers d'habitants ou un peu plus. Un peu plus, mais trouver un professionnel.
Ou une association, un professionnel de santé, ou peut-être se rapprocher d'une association pour en parler.
Donc ne pas être seul avec cette souffrance qui est très importante. On voit que votre souffrance est aggravée en raison de vos qualités. Parce que vous voulez être généreux, vous voulez rendre service aux autres, et que pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Donc, quelquefois, les qualités deviennent des maillons faibles lorsqu'on n'arrive pas à avoir la vie que l'on veut. Donc, briser l'isolement, voir quelqu'un qui est capable de savoir si vous présentez ou non une dépression. De dépression, il y a des symptômes très spécifiques, hein, comme l'amaigrissement, la perte d'appétit, difficulté à se concentrer, l'insomnie, la tristesse, la culpabilité, hein, parce qu'il y a des traitements de la dépression, hein, et ces traitements sont plutôt efficaces. Je vois. Ensuite, vous n'avez pas d'emploi dans votre pays, donc c'est le Togo, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un plan pour prendre en charge les jeunes chômeurs comme vous? Les aider, leur donner espoir. Mais l'idée, vous qui avez fait des études, c'est prendre les différentes souffrances que vous avez et voir quelles sont les petites actions que vous pouvez faire dans la semaine, dans le mois qui vient, pour diminuer ça. Hein? Votre tristesse, votre isolement, votre honte, je ne sais pas, votre fatigue physique, votre insomnie. Mais c'est un peu décomposé, comme des coquillages différents, décomposer votre souffrance et voir quelles sont les actions qui pourraient vous redonner le goût de la vie, le goût aussi d'une certaine patience aussi, hein, parce que vous luttez depuis longtemps et vous dites « je ne vois pas le bout du tunnel », c'est souvent ce que disent les personnes suicidaires. Quand est-ce que ça va s'arrêter ?
Donc ne pas rester seul, en parler, se rapprocher de structures qui peuvent vous aider, Raphaël. Merci beaucoup pour votre appel et votre confiance. On va partir en Côte d'Ivoire, entendre, écouter Oumar. Bonjour Oumar.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Bon, je suis un enseignant. Au cours d'une de mes formations, je commençais à avoir le stress. À la même période, j'ai perdu ma maman. Ça m'a créé des problèmes psychologiques. je stressais. Et j'avais des idées noires. Donc, je me suis fait suivre par un premier psychiatre et ensuite un second. Mais il n'y avait pas d'amélioration. J'avais beaucoup, beaucoup de symptômes, surtout les idées noires.
Voilà. Et donc, vous avez vu, je crois, un professionnel de santé, Omar ?
Oui, un premier et un second. Et un psychologue aussi.
Et on vous a prescrit un médicament ?
Oui, j'ai fait des traitements. J'ai fait des traitements et je n'ai pas été trop satisfait.
Et aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Je me sens bien. J'ai quelques petits symptômes, notamment les idées noires. Et je dors beaucoup aussi. Je peux dormir de 22h jusqu'à 15h. Surtout quand je me retrouve seul, j'ai beaucoup de pensées. Je ressasse tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans le passé surtout.
Merci pour ces mots, merci pour votre confiance. Omar, professeur Terra, est-ce que vous voulez réagir ?
Oui, alors on a envie de vous aider, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on pourrait faire ensemble, hein, pour que vous alliez mieux. Premièrement, ce rythme de sommeil est très dévalorisant. Hein. Donc je proposerais d'abord de vous resynchroniser, c'est-à-dire reprendre un rythme de sommeil correspondant à une vie sociale. Mais après 8h du matin, ça peut être mauvais pour le moral. Si vous êtes à 15h ou 16h, le moral n'est pas bon. Donc c'est se resynchroniser socialement. Deuxièmement, c'est votre dépression. Il y a des dépressions, si vous avez un antidépresseur, vous aviez un antidépresseur. Toutes les dépressions ne guérissent pas avec un antidépresseur. Donc, il faut savoir si vous avez les traitements adaptés. On parle de dépression résistante. Donc, ça sera important de voir quelqu'un qui est spécialisé, qui examine vraiment les symptômes résiduels que vous avez. Le refuge dans le sommeil, la fatigue souvent, trop dormir donne aussi de la fatigue importante, et puis l'impression d'être à côté un peu de votre vie. Alors j'aime pas trop le mot d'idée noire, parce que ça veut pas forcément dire pensée de suicide, mais ça montre que vous avez un degré de souffrance très élevé, et c'est totalement anormal d'avoir des pensées de suicide. Ça veut dire que vous avez une souffrance qui est intolérable. Donc, comment trouver des chemins pour apaiser vos souffrances ? Je reprendrai pour vous la question de cette honte, cette gêne au travail d'avoir annulé la formation. Je pense qu'il faudra en reparler avec vos responsables pour qu'ils comprennent bien dans quel état vous étiez au moment où vous avez été conduit annuler ce qui était un cadeau théoriquement, mais qui était un poison pour vous parce que vous n'étiez peut-être pas capable de la suivre en raison des troubles de la concentration liés à une possible dépression.
Merci beaucoup, professeur Terra, d'avoir répondu à Omar, et merci encore à vous, Omar, de nous avoir appelé. Je tiens à remercier tous les appels des auditeurs et auditrices, tous vos messages, vos témoignages et surtout votre confiance. Tout de suite, une pause musicale sur RFI. On écoute Jacob Banks et son titre Kumbaya.
Summer of 09, back where love is love divine. I still remember you there on my window, your hair blowing in the sky. We've grown up since then. You visit through my pen and through my tears, and I recall what we once were.
If paper planes could fly, we would never hit the ground. Used to ricochet my mind every winter in July. We've grown up since then. You visit through my pen, through the eyes of our old friends, and my voice when I pretend. Come back.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, émission consacrée aujourd'hui à la journée mondiale du suicide. En votre compagnie, professeur Jean-Louis Terra. Vous restez avec nous. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction de la RDC.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
On retrouve le professeur Samuel Mampounza. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes neuropsychiatre, ancien doyen de la faculté de médecine de Kinshasa et actuel vice-recteur de l'université protestante au Congo. Professeur Mampounza, est-ce que vous avez des données sur le taux de suicide dans votre pays, la RDC?
Malheureusement, je dois vous décevoir peut-être. Les données n'existent pas comme telles, faute d'épidémiologie psychiatrique fiable. Tout ce que nous pouvons avoir, ce sont les impressions cliniques, ce qui nous arrive, nous cliniciens. Mais il n'y a pas de données sur le pays, ni incidence, ni prévalence, combien dans la population, on n'en a pas.
Et est-ce que le suicide est un sujet tabou au sein de la population congolaise? Est-ce qu'on peut parler de stigmatisation des personnes suicidaires?
D'abord, il faut dire qu'il y a très peu de gens qui viendront se plaindre ou venir vous consulter pour des crises suicidaires, pour des idées. Et généralement, c'est des personnes qui ne consultent pas ou qui vont voir des guérisseurs ou des soutiens dans la communauté. Mais très peu de gens savent que le milieu médical peut être concerné par ces problèmes.
Prendre en charge.
Mais de plus en plus, les intellectuels, des Africains que j'appellerais entre guillemets occidentalisés, commencent quand même à se dire qu'il faut consulter, effectivement.
Et dans ce cas-là, quelle est la réaction de l'entourage quand un suicide survient au sein d'une famille?
D'abord, c'est quelque chose de très mal vécu. Culturellement, une personne suicidante ou une personne suicidée, celle qui est arrivée à se suicider, sont très mal considérées. Il est même de coutume que le suicidé, donc la personne morte de suicide, ne soit pas considérée, ne bénéficie pas des funérailles dignes de son nom, parce que c'est dévalorisant. C'est ce qui fait d'ailleurs que les personnes restent dans leur cocon, ne partagent pas ou ne consultent pas.
N'osent pas venir en parler, ni aux proches, ni aux professionnels de santé, c'est ça?
Certainement pas aux professionnels de santé, mais à certains proches, ils le font. Surtout qu'en Afrique, c'est assez rare quand même aussi, hein, du fait que ce qui ne va pas vient de l'extérieur. Donc on n'est pas responsable. Donc la personne qui doit être condamnée à mort, si vous me prêtez l'expression, parce que ça ne va pas, c'est pas soi-même, c'est quelqu'un de l'extérieur. Donc, généralement, en Afrique, ce problème n'a pas l'ampleur de ce qui est vu ailleurs. Mais ça existe, bien entendu.
Alors, quelle est la prise en charge pour les personnes qui tentent de mettre fin à leur jour en RDC?
Alors, moi, j'ai toujours préconisé, généralement, les gens passent par les raccourcis, ils font un médicament, un antidépresseur. Non. C'est tout un plan d'accompagnement en mettant en profit l'entourage, la personne elle-même d'abord, et puis ceux, les soutiens qui sont autour de lui, les médecins bien entendu. Alors les médicaments, l'antidépresseur, les tranquillisants, c'est des médicaments qui permettent de booster la personne pour qu'elle participe à la gestion de ce qui ne va pas, pour que ça soit durable. Donc moi je préconise un plan d'accompagnement où on met en contribution, la personne elle-même, la famille, le médecin, les psychologues, et ce soutien autour de lui, c'est plus renforçant et ça s'inscrit dans la durée que le seul médicament. Et surtout que les antidépresseurs, il faut se dire aussi, prennent quand même un certain temps avant d'agir. Et ce qui fait que beaucoup de malades se découragent en entendant et disent, oh, le médicament n'agit pas, il continue. Donc, c'est tous ces plans qui comptent.
Alors justement, est-ce que pour conclure, vous avez un message à faire passer?
Le message, c'est que les problèmes existent et que le soutien dans le milieu médical est bien codifié. Il faut que les personnes, les Congolais, les Africains sachent que présenter des idées qu'on appelle noires ou suicidaires, des idées négatives, c'est tout à fait normal quand des circonstances de la vie le permettent. Mais que aussi, tout un plan de soutien, tout un traitement, ou être un peu réductif, existe et qu'ils doivent consulter qui de droit.
Merci beaucoup, professeur Samuel Mampounza, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre, ancien doyen de la faculté de médecine de Kinshasa et actuel vice-recteur de l'université protestante au Congo. Professeur Jean-Louis Terra, est-ce que vous voulez réagir ?
Dire d'abord que j'aurais aimé saluer mon collègue et on se rend compte qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, hein. C'est-à-dire que le suicide n'est pas une maladie, c'est une souffrance extrême et on a de la peine à se faire aider. Et il faut essayer de mobiliser les ressources proches, notamment la famille. On parle d'aidants naturels pour trouver un autre chemin. La personne qui est suicidaire sort de la vie. Enfin, elle ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir. Bon, c'est le premier message à retenir. Elle ne veut pas mourir, mais arrêter de souffrir. Et comment l'entourage va ouvrir en somme un chemin, un nouveau chemin, hein, où la personne pensait que c'était impraticable, impossible. Et donc, c'est des petites actions à courte échéance, des choses très simples, qui redonnent le goût. Par exemple, une expérience au Japon a montré que des personnes âgées très suicidaires demandaient à des étudiants de les sortir quelques heures par jour, est une action positive. Ça s'appelle briser l'isolement, qui est la première chose. Un autre être humain doit savoir exactement où on en est.
Alors, justement, en conclusion de cette émission, à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, est-ce que vous avez mis un message à faire passer aux auditeurs et aux auditrices de Priorité Santé ?
Alors, le doute n'est pas permis. Si vous êtes près de quelqu'un qui souffre énormément, vous posez la question. Je veux pas te déranger, mais je veux savoir, je t'aime suffisamment, est-ce que cette nuit, tu as souffert au point de penser au suicide ? Si la réponse dit oui, vous demandez, si la personne dit oui, est-ce que tu as pensé quand le faire ? Déjà avec ces deux éléments, la présence d'idées et une date ou une date non fixée, c'est les premières choses de l'évaluation. Même les professionnels de santé oublient de demander non pas les idées, mais souvent le quand, et c'est le quand qui va déterminer le degré d'urgence de l'intervention.
Donc observer et orienter, si je comprends bien.
Et être curieux. C'est presque une perversion de ne pas être curieux de l'autre pour dire, dis-moi exactement où tu en es.
Ne pas hésiter à bouleverser l'intime.
C'est rentrer, pousser la porte pour dire, mais voilà, c'est comme une maison noire, où il n'y a pas de lumière. Dis-moi ce que tu as pensé cette nuit, tu aurais pu faire. Qu'est-ce qui était le plus terrible, hein. Donc il faut briser cette porte, hein, qui est souvent marquée par la fierté, par ce qu'on pense que l'autre ne pourra rien faire.
Merci infiniment pour ces mots, professeur Jean-Louis Terra. Je suis obligée de vous couper. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Claude Bernard Lyon 1, psychiatre consultant au centre de prévention du suicide de Lyon et membre de l'Observatoire national du suicide. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassen, Juliette Brault et Steven Elsie à la réalisation. Merci à Radio France Lyon pour les studios et on se retrouve demain à 9h10 en temps universel. D'ici là, bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.